Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, Nous n'avons qu'une terre s'entretient avec Yves Lers. Yves est journaliste honoraire, spécialisé dans l'environnement. Il a travaillé pour l'AFP en Algérie, puis à Paris, et il a pris la responsabilité de la direction de la communication à l'ADEME. Autant dire qu'il avait beaucoup d'infos pour ses livres. Il y a 3 ans, il a écrit donc le fameux livre dont nous avons parlé ensemble déjà, Le grand bouleversement, quelle vigne pour quel climat. Donc c'est un de ses premiers ouvrages sur l'influence du réchauffement climatique sur la vigne après les prédictions jusqu'en 2050. Donc, depuis ce cri d'alarme, le réchauffement est devenu une réalité pour beaucoup d'entre nous.
Oui.
Bien des prédictions ont été prouvées par les faits et par le temps. Yves Lers, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis l'écriture du grand bouleversement, il y a 3 ans, on est encore aujourd'hui en 2025, à 25 ans de 2050, puisque vos prédictions allaient jusqu'en 2050. Est-ce que vous auriez besoin de réécrire des chapitres, ou bien est-ce que finalement vos prescriptions, vos prévisions étaient assez bonnes ?
Oui. On ne peut pas dire que ce soit des prédictions, parce qu'en la mesure où c'est basé sur la réalité et sur la recherche scientifique. Cette année, on a eu en 2025 une vendange très faible en quantité. En France, en dessous des 40 millions d'hectolitres, pour donner une comparaison, c'est à 46 en Italie. Bon, c'est dû à la canicule, bien sûr, et des pluies trop tardives. Malgré tout, la qualité est assez élevée, et c'est déjà ça. Sauf si on frôle ou on dépasse 15 degrés dans la bouteille, alors là, c'est un problème. Le problème, il n'est pas juste climatique. Bien sûr que le climat met le doigt sur là où ça fait mal. Mais les stocks sont trop importants, il y a des invendus, il y a une consommation en forte baisse, la jeunesse... Fait la gueule, j'allais dire, contre aime pas trop les bouteilles comme ça, les bouteilles de vin, ça c'est plutôt la bière qui passe maintenant. Et puis il y a les aléas climatiques dont on a commencé à parler. On se demandait à un moment donné, on a parlé des vignes coupe-feu, bon, dans un certain sens, mais ça n'a pas beaucoup de réalité, hein, parce qu'à un moment donné, le feu, quand il passe. Ce qui est sûr, c'est que le rôle du climat est de plus en plus net. La limite de la chaleur pour la vigne, c'est autour de 40 degrés, 40 degrés centigrades. On l'a vu il y a quelques années dans l'Hérault, où tout avait grillé fin juin. C'était une vigne grillée, carrément, fin juin, avant l'été, proprement dit, quoi, tout. Alors ça, c'est une chose. Et puis, il y a un contexte international. Les taxes... de 15% vers les États-Unis. Pour l'instant, hein, c'est trop tôt pour savoir ce qui va se passer, mais il est certain que l'impact va être dur, et les organisations viticoles craignent beaucoup ce qui va se passer, en particulier vers les États-Unis, qui reste un très très bon client.
Dans notre région notamment, on avait eu une multiplication des feux et que la vigne avait été gravement touchée.
Les feux qu'il y a, c'est un indice. Il est certain qu'il y a eu énormément d'incendies cette année, et qu'il est bien probable que ces problèmes-là vont se résorber. S'il y a de la forêt proche, si c'est une forêt de résineux, que la vigne est à côté, ben, naturellement, elle risque de griller elle aussi au sens propre, quoi.
Alors, dans certaines régions, on savait que la vigne allait assez mal. Par exemple, c'est le cas chez nous, dans le Languedoc-Roussillon. On avait déjà des problèmes avec la salinisation. On avait des problèmes aussi avec les restrictions d'eau. Est-ce que finalement, le réchauffement climatique n'est pas une bonne excuse à un malaise plus général?
On a parlé du feu là tout à l'heure. Il faut aussi parler de l'eau. Parce que le feu, c'est bien, mais n'importe quelle culture, que ce soit la vigne ou autre, s'il n'y a pas d'eau, on sait très bien ce que ça fait. Alors des fois, on arrive à irriguer, mais c'est très compliqué parce que ça rentre en concurrence avec d'autres cultures. Maintenant, il est sûr que le réchauffement a mis le droit sur des erreurs qui sont pas forcément que des erreurs des vignerons. On a trop planté, on a mal planté, particulièrement dans le Bordelais. C'est le rôle des pouvoirs publics, c'est le rôle des instances dans les vignobles. Et puis, on constate qu'il y a les pesticides dont on parle beaucoup ces derniers temps, ils sont de plus en plus contestés. Il y a des contraintes, aussi pour le vigneron lui-même. Le verre est plus cher, le liège aussi. Il y a beaucoup de choses qui fait qui ont un impact sur cette crise et une difficulté. À Bordeaux, par exemple, ou dans le Bordelais, on a prôné un arrachage chez les petits qui maintenant est compensé parce qu'on ne peut pas laisser la vigne toute seule. La vigne toute seule, après, les maladies se répandent. Et les maladies pour la vigne, il y en a beaucoup. Il y a des inégalités dans le Bordelais entre les plus grands qui sont de plus en plus chers ou tout moins très chers et qui se préoccupent moyennement des petits, quoi. On a dans le Bordelais un vignoble qui était de 125 000 hectares en 2000, donc il y a un quart de siècle seulement, et qui est à 95 000, voire un petit peu moins déjà maintenant. 95 000, ça fait quand même une sacrée différence, presque 30 000 hectares de moins et tout. Et alors là, donc, on revient sur ce que je disais tout de suite, il y a un manque de vision, on constate un manque de vision des instances, notamment face au changement climatique, une évolution des cépages qui n'est pas perçue et qui est trop lente, qui est mal perçue, c'est-à-dire il faut changer des cépages, mais ça a toujours marché, alors on continue comme ça.
On va en reparler plus longuement dans quelques instants, en voyant s'il y a des possibilités sur le plan de la recherche. Mais actuellement, peut-on redessiner aujourd'hui une carte du vignoble mondial de demain ? Sait-on cette chose, par exemple, sur les impacts, sur les capacités de résilience, c'est-à-dire qu'on est déjà, on n'est plus qu'à, j'ai envie de dire, 25 ans de 2050, donc votre... Est-ce qu'entre-temps, on a beaucoup appris? Est-ce qu'on est capable, d'abord, les choses ont bougé? Et vous venez de le dire, vous venez de l'expliquer, les choses donc ont beaucoup bougé, mais est-ce qu'à échelle mondiale, on peut prévoir ?
Les choses, elles ont beaucoup bougé, et elles continuent à bouger. Le problème, c'est qu'il faut suivre. D'abord, il faut se mettre dans la tête que ce qui se passe, c'est un peu le début. On l'a vu pour les incendies, indépendamment des vignobles, on a vu pour le manque d'eau qui, dans certaines cultures, qui risque d'être tragique, où il faudra effectivement, là aussi, changer, non pas de cépage, mais de plantes. En France, on voit que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui savent se remettre en question. Vous allez me dire, c'est valable pour tout le monde et c'est valable partout. Peut-être. Mais c'est ceux qui ont compris ce qui se passe. C'est ceux qui ont compris, si je reprends l'exemple de la France, c'est plutôt en Bourgogne, en Alsace, une partie de la vallée du Rhône, mais surtout la Loire, avec le Chenin par exemple. Ils ont pris des labos dans leurs vignobles. Ils ont testé les cépages de demain, des pinots noirs sauvages en Bourgogne. Le bio, bien sûr, mais le bio commence à être... peut-être insuffisant. C'est l'agroécologie, c'est-à-dire une vigne dans son milieu, dans les plantations et tout, pas un bloc de vigne dans un coin, un carré ou un rectangle, etc. ici. Et puis aussi tester des nouveaux cépages, voir ce que donnent les cépages résistants qui ont été testés d'abord en Suisse et en Allemagne, et puis qui au départ, on n'y croyait pas trop.
Et alors, justement, tous ces bouleversements, est-ce que ça ne décourage pas les viticulteurs? C'est-à-dire que quand, par exemple, les Champenois voient que la Grande-Bretagne, les États-Unis peuvent produire, quand on voit qu'on commence à faire du vin dans le Pas-de-Calais, est-ce que tout cela décourage les vignerons ou au contraire, est-ce que ça les rend plus résilients?
Écoutez, ce qui est certain, c'est que il y a effectivement des vignerons qui sont découragés. Ceux qui n'ont pas de successeurs, qui n'ont pas de descendance, qui vont reprendre, ils arrivent à très mal vendre leur vigne, et c'est aussi une des raisons de l'arrachage. Et à un moment donné, ils sont tellement découragés qu'ils vivent. Par contre, est-ce qu'ils se préoccupent de ce qui se passe ailleurs? Ils ont tellement à faire chez eux qu'ils ne font pas. Mais on a une idée pour vous répondre sur la carte des vignobles de demain. Au nord du 45e parallèle, hein, pour moi et pour les chercheurs, il est clair que le 45e parallèle, qui est juste au nord de Bordeaux, c'est la limite, ça passe au milieu de la vallée du Rhône aussi, et que quand on est en dessous, et ben là, pour dire sans jeu de mots qu'on va déguster, mais c'est vrai quand même. Alors le reste en France, au nord de ce fameux 45e parallèle, ben quoi, c'est la Bretagne, c'est la Normandie. Et puis en dehors de ces deux régions, moi j'habite à la limite de la Normandie et de l'Île-de-France. Il y a deux vignerons qui se sont installés sur quelques hectares pour l'instant. Des céréaliers qui en avaient marre de faire que des céréales, parce que les céréales c'est un peu toujours la même chose. Comme ils ont de l'imagination et des sous, eh ben, ils se sont lancés là-dedans. Il y a une vigne, par exemple, au-dessus de Giverny, dans le village, quoi. Ce qui était inimaginable il y a quelques années, mais qui était une réalité juste après la guerre. Alors, ailleurs, bon, là, vous avez cité les Anglais, la Grande-Bretagne, bien sûr, mais aussi la Belgique, la Hongrie, et puis, bien sûr, un pays auquel on ne pense pas, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, le nord de l'Allemagne, est très très bien placé pour accueillir des vignobles sur des grandes surfaces. Parce que le problème, on peut faire des petits points comme ça de vignobles un peu partout, même en Suède, mais pas des vignobles de très grandes surfaces, quoi. Et l'Allemagne, le nord de l'Allemagne, ils ont le savoir-faire et ils ont les sous. Alors ça, c'est deux conditions qui sont un peu assez indispensables pour avancer. Ailleurs, dans le reste du monde, il y a le Chili. Le Chili, ce serait plutôt vers le sud, ce qui est notre nord, c'est-à-dire, c'est compliqué en Argentine, parce qu'il y a une concurrence autour de l'usage de l'eau. Le vignoble est autour de 1600 mètres d'altitude. Et puis l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle ne peut pas trop descendre vers le sud, parce que vers le sud, c'est quoi? C'est la mer et c'est l'océan, donc ceci. En Australie, ils ont eu beaucoup d'incendies, ils sont persévérants, ils ont beaucoup d'imagination. Il y a des îles autour, mais des fois, il y a eu des incendies qui ont ravagé des régions entières, quoi. Et là, c'est pas possible de lutter. Il y a une île un petit peu plus loin qui s'appelle la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, elle est bien placée. Elle est bien placée géographiquement, et elle est bien placée géologiquement. Et elle fait un vin blanc, un Sauvignon, qui est très bon. Et ils ont le savoir-faire et ils se débrouillent bien. Maintenant, est-ce que ça deviendra des grandes régions vinicoles? Pour l'instant, il y a quand même des choses sur lesquelles on est encore un peu en recherche de vérité, j'allais dire, parce qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer.
Justement, puisqu'on parle de recherche, aujourd'hui, la recherche a-t-elle perçu la gravité de la situation? Est-ce qu'elle va assez vite? Est-ce qu'elle a dans ses cartons des réponses? Est-ce que vous y accédez?
Elle existe en France de façon claire et nette. Des fois, certains labos et des grands labos ont pris un peu l'habitude de se marcher sur les pieds. C'est moi le plus fort, etc. C'est moi qui ai la vérité. Bon, dans le Bordelais, il y a une vigne expérimentale. Mais les vignes expérimentales et les tests de vignes expérimentales les plus efficaces, c'est ceux qui ont été faits dans des vignes par les vignerons. Je sais bien qu'ils n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais c'est quand même la vérité. En Bourgogne, quand ils testent eux-mêmes sur des labos en plein air avec des pinots noirs toujours pour le vin rouge, bien sûr, et des pinots noirs sauvages qui seraient peut-être la solution pour plus tard, eh ben ils sont peut-être dans la vérité, quoi. Et le bio est toujours très utile, mais il n'est pas suffisant. Il y a toujours du cuivre qui est utilisé, et le cuivre, au bout d'un moment, c'est pas très très bon dans le sol. Donc on va vers la biodynamie. La biodynamie, c'est ce qui préserve le plus le sol. Et la vigne, comme vous savez, elle a besoin du sol. Donc on va, sans aller jusqu'à la biodynamie, on va sur l'agroécologie, c'est-à-dire préserver la vigne, mais la vigne dans son milieu, avec des arbres autour, avec des plantes entre les rangs de vignes, et des tests de plus en plus fréquents, ce que j'avais commencé à dire, je crois, sur les cépages les plus résistants. D'autres cépages résistants qui sont en général des croisements. J'allais dire des bâtards, mais ça fait rien, ça peut être des très bons au contraire dans ceux-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en questionnement du fait du malaise général, d'une part autour de l'agriculture, d'une part autour des vignobles par rapport à la consommation elle-même en France, en Europe, même si il reste, quand je disais qu'on a produit 40 millions d'hectos, encore 36 exactement, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas une petite truc. Le problème, c'est que on va pas tout consommer en France, hein, on en consomme à peu près un peu moins de la moitié, hein, mais c'est déjà pas mal. Et le reste, on consommait beaucoup, on vendait beaucoup aux États-Unis. Maintenant, est-ce que les vins qui sont les plus appréciés, comme le Bordeaux, le Bourgogne et le Champagne, par exemple, est-ce que ces vins-là vont continuer à pouvoir être vendus aux États-Unis? Eh bien, pour l'instant, rien n'est moins sûr, parce
alors,
que 15% de taxes,
c'est beaucoup.
C'est pas rien. Hein. Ouais. Même si les clients américains des vins français par exemple, ces clients-là sont les premiers à hurler contre les taxations de notre ami Trump et tout, parce que eux ils vivent de ça aussi, quoi. Aux États-Unis, on cultive pas mal de viennes, c'est un des troisième ou quatrième producteurs de vin au monde, mais avec des problèmes aussi. Si on voit ce qui s'est passé en Californie avec des feux énormes, des fois, les feux, même s'ils sont pas à proximité, il y a des vignes qui ont été brûlées, mais même s'ils sont pas à proximité des vignes et que ça se sent, ça donne aux raisins et donc au vin une espèce de goût de fumée qui le rend, je dirais pas imbuvable, mais presque imbuvable, quoi.
Ah, c'est ce qui s'est passé chez nous.
Sachant que ce qui va se passer, on parlait de 2050 tout à l'heure, eh ben, ce qui va se passer en 2050, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va très vite et que, qu'il s'agisse de la vigne, qu'il s'agisse du reste de l'agriculture et des céréales, eh ben, pour l'instant, on se pose beaucoup de questions, sachant que pour le reste de l'agriculture, comme pour la vigne, c'est les deux problèmes, c'est la chaleur et l'eau.
Les collectivités locales semblent se réveiller à Montpellier cette semaine, puisque c'était mardi 14 octobre, le conseil de droit M a adopté la nouvelle feuille de route qui renforçait son soutien à la vigne.
De vouloir se réveiller et de vouloir soutenir les vignerons et la recherche, pas tellement, mais voir ce qu'ils peuvent faire pour les aider. Eh ben, tant mieux, mais il faut pas trop attendre. Si on prend Montpellier, mais si on prend un peu plus au sud-ouest, tout ce qui est des vignobles qui sont les plus grands vignobles de France, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, là, ceux-là. Malgré l'obstination, malgré la recherche, malgré toute la résistance, j'allais dire, des gens qui cultivent, à un moment donné, on peut plus contre une nature qui a tellement changé. C'est ça aussi le problème, un problème qui concerne la vigne. Et l'intérêt de la vigne, 3000 ans la vigne quand même. Il n'y a pas beaucoup d'autres plantes qui peuvent en dire autant, j'allais dire. Mais la vigne, elle, a un moment donné, il faut qu'elle puisse être accompagnée. Et si elle n'est pas accompagnée, comme ils le font par exemple à Sancerre, dans la Loire, à Sancerre, ils ont leur propre labo de vignes. Et après, ce sont les labos de recherche publique qui sont venus les voir. Donc ils ont fait la démarche inverse à celle qu'on voit d'habitude, sachant toujours, comme je le disais tout à l'heure, que quand on est en dessous de ce fameux 45e parallèle, c'est-à-dire vers en dessous de Valence, par exemple, vers Valence d'un côté de la vallée du Rhône, et du côté un peu plus, disons, 20-30 km au nord de Bordeaux, 30 ou 40 km au nord de Bordeaux, eh bien on sait que ça va être chaud au-dessous. Alors en dessous, on a parlé tout à l'heure du travail que fait Montpellier, est-ce qu'il va s'intéresser à... Le plus vaste vignoble en France, c'est le Languedoc. Et le plus vaste vignoble en France, c'est le Languedoc, qui fait maintenant, contrairement à, disons, une génération, des vins de qualité. Et ben maintenant, c'est vraiment chaud devant, quoi. Ils savent quels sont leurs risques, ils les mesurent, mais encore une fois, il y a une limite, quoi. C'est ça qu'on ne sait pas par rapport à 2050. 2050, c'est dans 25 ans. C'est pas loin, hein, qu'on voit 25 ans d'avant, c'est de l'an 2000. Alors, l'an 2000, c'est vraiment hier. Et les autres 25 ans, il va falloir, dans ce domaine-là que dans d'autres, qu'on prenne tout au sérieux et tout. La vigne, elle est encore, en quelque sorte, elle montre le chemin. Elle montre un chemin qui n'est pas facile et elle essaye de faire comprendre. Et vous voyez ce que je vis, moi, pour arriver à vous produire des belles bouteilles, pour investir. Vous voyez ce que je vis, ben écoutez, faites attention parce que vous aussi, ça risque de vous arriver.
Alors, effectivement, je rappelle que face à ces difficultés dans le Languedoc-Roussillon, la feuille de route qui a été décidée par la métropole, eh bien, c'est pour renforcer son soutien à la vigne, c'est de développer de plus en plus de l'œnotourisme, du tourisme durable, de la défense du patrimoine.
Renforcer son soutien, c'est bien beau, j'allais dire, mais de quelle façon? Ils vont pouvoir aider à la conversion, ils vont aider à l'arrachage, ils vont aider les petits viticulteurs qui ont des retraites, s'ils perdent leur vignoble et qu'ils n'arrivent pas à le vendre, mais ils ont des retraites absolument minables. Et ces gens-là, il y en a qui sont au bord du suicide. Il faut les aider, il faut aider les petits d'abord. Les gros, par exemple, dans le Bordelais, je me fais pas trop de soucis pour eux. À Saint-Émilion, où on est allé avec notre association de journalistes de l'environnement, il n'y a pas très longtemps, c'est presque qu'on s'en tirera toujours. Mais ça c'est de la blague. Il faut regarder les choses en face. Hein. C'est comme quand vous avez une maladie, on sait que sur certaines maladies, on s'en tire ou on ne s'en tire pas. Quoi. Alors il faut trouver les bons médicaments. Peut-être que pour la vigne, il faut trouver les bons traitements. Et ensuite, être très très vigilant, c'est-à-dire avoir une attention qui soit une attention permanente de façon à pouvoir... Pour l'instant, ce qu'il y a et ce qu'on voit, des viticulteurs qui croient à ce qu'ils font, qui sont très attentifs, et on sait que c'est comme ça qu'ils arriveront à s'en tirer.
Merci Yves. Donc, je rappelle votre livre, Le vin, le grand bouleversement, et c'est chez Buchet-Cachel. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver donc pour faire un point sur le congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Et j'espère qu'un luthier sera à nos côtés pour expliquer la difficulté que rencontrent certains métiers aujourd'hui quand une espèce est interdite, mais que cette espèce est la base de la totalité de son artisanat. Donc, au revoir, bon week-end et à bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.